L'actualité des Alpes du Sud et les opérations de recherche du corps d'Émile Auvernet sont terminées.
Mise en place le 30 mars dernier après la découverte d'un crâne par une randonneuse. Elles se sont achevées hier vers 15h30 selon le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Jean-Luc Blachon appelle à la sérénité pour l'enquête mais aussi et surtout pour la famille de l'enfant et les habitants du Auvernet. Et
l'activité touristique dans les Hautes-Alpes cet hiver a augmenté de près de 5% par rapport à l'an dernier.
C'est globalement une très bonne saison qui s'achève pour l'agence de développement du territoire avec pour certaines stations une saison référence en termes de fréquentation et de consommation.
Et puis une des stations qui a terminé sa saison résout avec cette question aujourd'hui: jusqu'à quand le pont provisoire va-t-il rester en place?
Installé dans l'urgence après les intempéries de début décembre, il a sauvé la saison de la station. Marcel Cana, le vice-président en charge des routes, est clair: le pont est là pour un moment en raison de la complexité du terrain.
Mardi, les nouveaux conseillers du salarié dans les Alpes de Haute-Provence ont pu échanger sur leur mission.
Conseils, informations, éléments juridiques, ils sont un véritable rouage dans l'accès aux droits du travail des salariés des toutes petites entreprises.
Et puis un parcours du cœur pour être solidaire, c'est à Gap dimanche.
Pour la 16e année, l'amicale des baliseurs et randonneurs du Gapençais et la Fédération française de cardiologie organise ce rendez-vous. Les fonds seront reversés directement à la fédération. La météo?
Oui, avec encore quelques nuages en matinée sur le nord du département des Hautes-Alpes. Et puis un temps bien ensoleillé par la suite, notamment cet après-midi. Des températures qui repartent à la hausse, 17 à 24 en vallée. Et puis c'est du grand soleil sur les Alpes de Haute-Provence. Température maxi de 19 à 24 degrés. Les opérations de recherche du corps d'Émile Auvernet sont donc terminées.
Annonce hier soir du parquet d'Aix-en-Provence. Elles se sont achevées vers 15h30 hier, selon le procureur de la République. Et Aurore Valory, ces recherches avaient été mises en place après la découverte par une randonneuse le 30 mars d'ossements.
Oui Nino, des recherches méthodiques et approfondies qui ont été menées sur 45,3 hectares, explique le procureur Jean-Luc Blachon. Les enquêteurs de la cellule nationale d'enquête ainsi qu'une centaine de gendarmes composés de militaires du groupement des Alpes de Haute-Provence, de deux escadrons de gendarmerie mobile, mais aussi d'une cellule anti-drone, de deux équipes cynophiles de recherche de restes humains et des experts de l'IRCGN avec des anthropologues et un coordinateur criminel ont été mobilisés sous la direction des magistrats instructeurs, un dispositif qui avait été renforcé durant deux jours par la venue d'une section du 2e régiment étranger du génie spécialisé dans la fouille des sols. Un dispositif important donc qui, selon le parquet, a permis de découvrir plusieurs éléments corporels et effets appartenant à Émile. Ils sont expertisés par l'IRCGN. L'information judiciaire, quant à elle, se poursuit pour déterminer les circonstances du décès du petit garçon de 2 ans et demi. Il importe que la sérénité de l'enquête soit préservée, comme doit l'être la tranquillité de la famille de l'enfant et des habitants du Auvernet, conclut le procureur d'Aix-en-Provence dans un communiqué.
Merci Aurore.
Hier matin, la ville de Gap, victime d'une importante fuite de gaz au niveau du Décathlon dans la zone commerciale.
Un engin de travaux a percé un tuyau de gaz vers 9h. Face à la fuite, le secteur a été évacué, tout comme les magasins qui devaient ouvrir autour. La circulation ferroviaire entre Gap et Briançon a été suspendue. Les pompiers et les services de GRDF sont intervenus. Le maire de Gap, Roger Didier, s'est rendu sur place. Les pompiers avaient fini à midi toutes les vérifications pour éviter un risque d'explosion. Seulement 186 abonnés de l'avenue Émile Didier et rue du Plan étaient toujours privés de gaz. La situation est revenue à la normale vers 20h hier, selon le gestionnaire des réseaux de gaz.
L'activité touristique dans les Hautes-Alpes cet hiver a augmenté de 4,8% par rapport à l'an dernier.
Un chiffre annoncé par l'agence de développement du territoire, c'est globalement une très bonne saison qui s'achève selon elle, avec pour certaines stations une saison référence en termes de fréquentation et de consommation. Un bilan contrasté en revanche pour des stations du Dévoluy ou du Champsaur qui n'ont pas bénéficié d'un aussi bon enneigement que d'autres en début de saison. On note plus 14,5 points de taux d'occupation pour les vacances de Noël par rapport à l'an passé. C'est plus 3,8 points pour les vacances d'hiver, mais moins 0,7 points pour les vacances du printemps. Le ski est toujours possible jusqu'au 14 avril pour Serre-Chevalier et Orcières, jusqu'au 20 avril à Montgenèvre et jusqu'au 1er mai pour la Grave, la Mège.
La saison est en revanche terminée à Risoul depuis dimanche dernier. Et alors, On en est où pour l'accès à la station depuis le village ?
Un pont militaire provisoire est en place depuis les intempéries du premier week-end de décembre. À ce moment-là, un éboulement avait rendu impossible l'accès à la station. Dans une véritable course contre la montre, les équipes départementales avaient installé un pont militaire temporaire pour établir un moyen d'accès avant les vacances d'hiver. Grâce à ce pont, les vacanciers ont pu se rendre dans la station dès le 20 décembre et par la suite tout l'hiver. La saison est désormais terminée à Rizoul et le pont va voir sa vie prolongée pour un moment, selon Marcel Cana, le vice-président du département en charge des routes, car le terrain est complexe.
C'est très compliqué. Bon, on a déjà des sondages à faire, c'est en cours, quoi. Les sondages sont en cours. Quelque part, il faut qu'on remonte, soit on monte en paroi clouée, c'est-à-dire qu'on fait des micropieux et on monte un mur en paroi clouée et on met, pour schématiser, des barres de fer verticales et on met des barres de fer horizontales. Et on monte un mur. Soit on fait une longrine au pied qui soit bien épaulée avec des ancrages, avec des micropieux aussi qui épaulent cette longrine, et on monte un arrochement en béton, quoi. Mais du temps qu'on remonte le mur, on travaille hors chaussée, quoi. C'est-à-dire que le pont, tel qu'il est placé, il ne nous gêne pas. On peut travailler dessous sans pour autant toucher la circulation et sans pour autant toucher au pont, quoi. Il y a une autre étude qu'on n'a pas donné suite. On a étudié pour entrer dans le talus. On n'a pas donné suite parce qu'il faut vraiment, vraiment aller très, très, très loin. On s'accorde tous à dire qu'il ne faut pas le faire. Donc maintenant, on sait qu'il n'y a plus qu'un... on ne peut travailler que sur la partie aval. Le pont, en clair, le pont... restera tant qu'on n'a pas fait le mur.
Le vice-président en charge des routes donne une date, au plus tard jusqu'à la fin de l'hiver 2025.
Marcel Cana qui était d'ailleurs mardi au ministère des Transports pour une rencontre avec Patrice Vergriet, le ministre.
Il était accompagné de Jean-Michel Arnaud, le sénateur des Hautes-Alpes, et de Jean-Marie Bernard, le président du département. Ensemble, ils ont évoqué les transports dans le département, à commencer par les installations ferroviaires. Le ministre s'est dit au courant de la situation du train de nuit Paris-Briançon, qui a encore 1h20 de retard ce matin. L'amélioration de la ligne Briançon-Marseille a été évoquée, tout comme les routes nationales qui traversent le département. Les Hautes-Alpes demandent la maîtrise d'ouvrage et des financements sur plusieurs nœuds pour améliorer la fluidité en vue des Jeux Olympiques en 2030. Dans cette optique, le département se dit prêt à mettre 200 millions d'euros pour les infrastructures avec une participation de l'État. Une prochaine réunion a été programmée avec les mêmes acteurs et Renaud Muselier, le président de la région à l'automne.
Il joue un rôle central dans les entreprises privées, ce sont les conseillers du salarié.
Institué en 1989 pour accompagner les salariés des très petites entreprises dépourvues de syndicats du personnel, ils interviennent dans des moments spécifiques comme la rupture d'un CDI dans le cadre d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. Conseils, informations, éléments juridiques, les conseillers du salarié sont un véritable rouage dans l'accès aux droits du travail des salariés. Mardi, les nouveaux conseillers du salarié dans les Alpes-de-Haute-Provence ont pu, lors d'une réunion de travail au sein de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, échanger sur les missions du conseiller du salarié. Anne-Marie Durand en est la directrice.
Leur mission, c'est d'être en appui aux salariés. Il s'agit de petites entreprises. Le rôle du conseiller du salarié, c'est de donner des informations d'ordre juridique, de mettre un peu d'huile dans les rouages parce que les ruptures de contrat de travail peuvent être parfois houleuses. Donc c'est à la fois une mission de conseil, mais aussi d'appui aux salariés, hein, parce qu'il est bien là pour faire en sorte que le salarié puisse faire valoir ses droits dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement ou de l'entretien préalable à la rupture du conventionnel. Donc ils ne sont pas présents dans toutes les entreprises, ils interviennent ponctuellement lors d'un événement qui est la rupture du contrat de travail dans les petites entreprises, ce qui nous concerne particulièrement parce que dans notre département, nous avons eu en majorité des entreprises avec ces effectifs-là. Donc pour nous, ils ont un rôle vraiment, vraiment primordial.
Les 63 conseillers du salarié dans les Alpes-de-Haute-Provence disposent d'une carte d'attestation individuelle lui permettant de justifier sa fonction. Notez que, en plus des permanences physiques et téléphoniques et des réponses mail aux usagers, le service politique travail a mis en place des permanences délocalisées au sein des maisons France Service. Le but, rapprocher les publics les plus éloignés de Digne-les-Bains. Détails sur alpe1.com.
Les films plastiques de maraîchage désormais valorisés sur la CCAPV.
La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon s'associe à Adivalor. Il sera possible désormais de déposer directement ces films en déchetterie intercommunale. L'objectif, réduire au maximum les déchets comme les couvertures de serre en plastique qui partiront à l'enfouissement sur le centre de stockage de Valensole. Ils seront recyclés désormais pour créer de nouveaux objets. Attention toutefois, il est demandé de secouer et rouler en boule ces déchets pour faciliter la manutention des équipes.
L'Agrave fait sa 12e édition de la Medjo Télémarque Festival.
Ce rassemblement festif se tient dès demain et jusqu'à dimanche. Il permettra de découvrir la pratique du télémarque. Cette technique de ski d'origine nordique ressemble au ski de piste traditionnel, mais les talons restent libres. Durant tout le week-end, des initiations seront proposées par l'association Medjo Télémarque, encadrée par des professionnels avec le prêt de matériel. Il faut toutefois avoir une bonne maîtrise du ski alpin traditionnel.
Et puis un parcours du cœur, ça c'est à Gap et c'est pour être solidaire.
Pour la 16e année, l'amicale des baliseurs et randonneurs du Gapençais organise ce rendez-vous dimanche avec la Fédération française de cardiologie. 4 parcours seront proposés ainsi qu'un circuit d'apprentissage marche nordique, des initiations au massage cardiaque avec les pompiers du SDIS, mais aussi des animations de prévention seront organisées toute la journée au domaine de Charence. Une participation minimale de 2 euros est demandée. Ces fonds seront reversés directement à la Fédération française de cardiologie.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.